bonjour, voici un nouveau volet de l'émission Parlez-moi de vous, présenté et proposé par Pierre Mainvier. Je dis bonjour parce que l'émission a changé d'horaire voilà, dans le studio. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Jean-Claude Delachat.
Bonjour.
Eh bien, Jean-Claude Delachat, je me suis permis de vous inviter parce que vous, en fait, vous êtes à cheval entre la région de l'Ouest parisien, Paris, et le Perray-en-Yvelines. Puisque votre famille habite le Perray-en-Yvelines.
Absolument.
Dans le canton, donc ça concerne donc les gens qui écoutent RVE sur 103.7. On ne rappellera jamais assez la fréquence. Donc Jean-Claude Delachat, vous êtes ingénieur du son dans une télé que tout le monde connaît,
oui, qui
est la première chaîne
de
télé française. On va pas la citer pour pas faire de publicité. Mmh. Et en fait, vous êtes ingénieur du son pour un magazine qui traite de sport mécanique.
Entre autres, oui.
Entre autres. Voilà. Donc, vous pourriez vous présenter un petit peu votre première casquette, si j'ose dire.
Ma première casquette, côté professionnel.
Voilà, c'est ça, en quoi consiste le travail d'ingénieur du son sur une émission qui traite de sport mécanique.
Le travail est à peu près le même pour toutes les émissions sur lesquelles je peux travailler. C'est-à-dire qu'il faut enregistrer en général le commentaire d'un journaliste sur des images qui ont été montées au préalable, montées en musique la plupart du temps, montées comme des clips en fait. C'était des émissions de voitures, maintenant c'est devenu ça. C'est des clips, ça va très très vite, il y a des effets dans tous les sens.
C'est le monde de la vitesse.
Ouais. Et donc il faut arriver à mélanger tout ça, les sons, les musiques, les effets, et puis la voix du journaliste. Et puis tout doit s'entendre, donc c'est un savant mélange de dosage entre tous ces éléments.
Alors, ce qu'on appelle le dosage en français dans le texte, c'est le mixage, en fait.
Le mixage, voilà,
anglais,
mélange.
Mixé, mélangé, on dose les différents effets, et puis maintenant, il y a un progrès technologique que connaissent bien les auditrices et les auditeurs, c'est le 5.1, c'est-à-dire maintenant, vous êtes tenu de mixer en 5.1, c'est-à-dire sur 6 canaux différents.
Pas tout. Non,
pas tout.
C'est assez récent. Non. Ce qu'on mixe en 5.1, plutôt, ce sont ce qu'on appelle les teasers. Alors ça, c'est encore un mot anglais. C'est ce qui est fait pour exciter.
Les bandes annonces.
C'est pas la même chose. La bande annonce, c'est. Non, le teaser,
c'est pour attracter, attirer.
Voilà,
en fait.
Teaser, c'est ça.
Ouais.
Et c'est ce qui passe souvent entre deux épisodes d'une série, par exemple, pour que les gens s'en aillent pas pendant la pub. Donc on leur dit dans un instant la suite de tel machin, tel feuilleton, voilà.
Pas de pause café.
Et ces feuilletons américains sont mixés en 5.1. Donc il faut qu'on fasse nous nos petits teasers, nos petites bandes annonces. Oui, c'est un peu ça quand même. En 5.1 aussi. Ça c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses à mélanger.
Une formule ultra courte comme une pub qui dit bon bah allez regarder ce super numéro. On va le citer. C'est Automoto Journal. S'il y a un nouveau modèle à honorer, à explorer, etc., etc. C'est vraiment fait pour les passionnés. En fait, c'est une émission de passionnés.
Complètement.
C'est pas, c'est comme le football. Les gens regardent le football parce qu'ils aiment ça. Les gens regardent les sports mécaniques parce qu'ils aiment ça. Et maintenant, ce serait bien de leur offrir un petit peu des circuits pour qu'ils puissent s'éclater, non ? Puisque on peut plus. Parce que vanter la vitesse à la télé, on fait plus de pub pour le tabac, mais la vitesse, elle est très mal vue maintenant. Elle a toujours été plus ou moins mise à l'honneur dans les courses. Mais est-ce que les sports mécaniques sont accessibles au public normal ?
Oh, ils sont accessibles, ça reste quand même quelque chose qui est assez cher quand même. Le grand public, je ne sais pas. On peut, faire effectivement le week-end des initiations sur des circuits, mais c'est assez.
Pour 100 euros, on peut piloter une Formule 1.
Je ne sais pas exactement ce que ça coûte. Non, pas une Formule 1. Non, des monoplaces, pas des Formule 1. Mais ça coûte assez cher, donc. Les émissions, ça présente vraiment, c'est vraiment une espèce de truc un peu, comme on peut dire, de rêve, Donc, ils nous montrent des voitures qu'on ne peut pas conduire, de toute manière. Des voitures qui coûtent des fortunes, ou des voitures de course, ils font des essais,
J'ai vu qu'il y avait des roadsters électriques aussi, que
ouais.
Charles Zeneguer et un autre comédien, qui s'appelle, je ne sais plus comment, avaient des voitures électriques de sport.
Oui, alors aux États-Unis, la législation n'est pas la même du tout. Aux États-Unis, on prend n'importe quelle voiture, on la fait, on ne dit pas électrifiée, passer à l'électrique. Non, il n'y a pas de passage aux mines. Donc on peut le faire aux États-Unis, mais on ne peut pas les conduire en France.
Oui, je me souviens d'un gars qui a voulu rouler avec un char, qui avait demandé une autorisation. Il a eu l'autorisation de rouler en char. Ça devait être un char pas chenille, hein, pour le bitume, c'est pas bon. Imagine. C'est pas très rapide, donc on n'en parle pas dans, dans votre journal. Mais c'était une petite digression, comme ça, effectivement, sur le droit américain.
Si, là, si, il y a eu des épisodes. Il y a eu un journaliste qui est parti depuis, qui essayait tout un tas de véhicules. On l'a vu conduire, justement, des chars, des camions de pompiers, un tracteur pour les avions, sur les pistes d'Orly, tout ça, quoi. Enfin bon. Pour l'émission, quoi, c'était rigolo.
Tout ce qui est locomotion.
Une espèce de rubrique, quoi, tout ce qui, voilà, tout ce qui a des, tout ce qui a des roues, quoi.
Et les filles aussi, ouais. Il y a beaucoup de filles qui s'intéressent aux voitures de course. Il y a des compétitions féminines.
Ouais. Ah, je sais pas ça. Oui, enfin, il y a des femmes. Il y en a une en Formule 1 il y a une bonne dizaine d'années, je pense, mais qui n'est pas restée longtemps. Ça reste, je crois, un truc de garçon quand même. Il y en a. Aux États-Unis encore, il y a des femmes qui courent aussi sur les ovales, hein, les circuits de.
Oui, il y a peut-être des bons exemples à prendre outre-Atlantique.
Ouais. Peut-être, oui. Peut-être plus aux États-Unis qu'en France. En France, vraiment, je n'entends pas souvent parler de pilotes femmes.
Non, c'est peut-être un pays qui est lent à se mettre aux nouvelles idées, etc. C'est vrai que la vitesse sur la route, c'est dangereux. Mais sur piste, c'est complètement le risque est calculé, puisqu'il n'y a jamais de. C'est fini. Maintenant, la sécurité, elle est pratiquement. Les gars, ils sortent indemnes d'accidents terribles. Hein, ça a fait faire beaucoup
souvent,
de progrès
aussi
à la sécurité et à la mécanique, le sport. Je prends un exemple tout particulier, le Spitfire, l'avion mythique anglais, de l'avion de combat anglais. C'est un moteur Rolls-Royce, Merlin, V12. On trouve ça dans les bagnoles. Et en même temps, c'est issu d'un hydravion de compétition. Donc la compétition, la course, fait faire des progrès mécaniques. Et des fois, ça peut faire gagner des combats, des batailles. La preuve est faite. Donc on gagne aussi la bataille de la route en orientant les gens vers les sports mécaniques, mais de manière douce, je suppose. C'est pas, vous n'êtes pas sur un circuit, je pense qu'il y a quand même des conseils, il y a quand même un cadre.
Il faut beaucoup de pédagogie.
Il n'y a pas que du rêve.
Dans l'émission, ils font beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire que quand ils essaient des voitures, ils précisent bien que c'est un circuit, que ce sont des pilotes qui ont fait ça, que voilà, on ne fait pas ça à la maison, quoi, dans son village, quoi, évidemment. Mais non, ils font beaucoup de pédagogie, ils rappellent régulièrement, puis ils sont obligés, ils sont très, très surveillés de rappeler les règles de circulation.
Ils peuvent simplement avoir une déontologie, une éthique aussi, voilà, la course c'est bien, mais c'est sur les. Ou faire du rallye aussi, vous parlez beaucoup de rallye dans vos émissions.
Oui, mais c'est souvent une émission qui est un peu à part. Ça passe plutôt le soir.
En
c'est
dossier.
C'est des résumés. C'est pas. Il y a peu de rallye dans l'émission automoto.
Donc revenons, Jean-Claude Delachat.
Oui. Parce que là, on est parti dans les bagnoles quand même.
Non, on parlait d'automoto journal. Donc c'est quand même la matière principale qui est traitée. On a vu différents aspects du phénomène, puisque c'est un phénomène. Hein, c'est quand même. Ça a 100 ans, les moteurs à essence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de. Tout le travail du son qui est fait sur une émission comme ça, parce que les bruits de moteur, c'est bien, mais c'est pas de la musique. Ça peut en être, on les reconnaît. Si, quand même.
Pour beaucoup, c'est de la musique.
Une controverse. Développée.
Ah, si, c'est de la musique. Il faut faire très attention, justement, ça nous arrivait, par exemple, d'avoir sur une. Ça nous arrivait sur un passage d'un reportage de ne pas avoir de son. On fait très attention de mettre le son de la bonne voiture, parce qu'on a des spécialistes qui sont capables de téléphoner pour dire attention, vous rigolez, là, on voit une Ferrari, on entend une. Une deux chevaux. Même une autre voiture, c'est très, très différent. Hein. Entre un V12 et un V8, c'est et quand on connaît un petit peu, c'est le jour et la nuit. Et même à l'intérieur des catégories, les spécialistes reconnaissent vraiment les moteurs, quoi. Comme les armes, un petit peu.
C'est une science exacte, la mécanique. Ça ne souffre pas le mauvais réglage.
En tout cas, moi je trouve ça assez agréable et assez musical pour certains. Il y a des moteurs quand même, c'est assez. Alors, bon, musical, c'est peut-être un peu exagéré, mais.
Bah, le V12 du Spitfire, c'est une note très aiguë.
Voilà, exactement. Plus il y a de cylindres, plus le son devient fin et métallique, quoi. Un V8, ça pétarade encore beaucoup. Ce qu'il y a pas dans le. Voilà, c'est très différent. Il y a un son rauque un peu. Et le V12, c'est.
Bon, on peut encourager les auditrices et les auditeurs de RVE à aller écouter cette.
Musique.
Cette symphonie de son mécanique, hein, avec des différents, des V8.
Mais il existe V12, des disques, il existe des disques avec où ce sont que des bruits de moteur différents, qu'on peut comme ça comparer. C'est pas mal fichu. J'ai déjà écouté ça, c'est assez intéressant.
Pour la méditation ?
Pas trop pour la méditation. Non.
Jean-Claude Delachat, vous êtes ingénieur du son, donc dans une grande télé. Mais également. vu la génération à laquelle vous appartenez, vous avez eu le privilège, l'honneur et le plaisir de participer à une grande époque de la musique en France, qui était l'époque du rock progressif. Parce que vous êtes également un musicien. Donc vous êtes guitariste de formation.
Oui.
Vous jouez de la guitare auto-formation. Je suppose que vous avez pris quelques cours quand même. Vous avez pris quel est le parcours d'un guitariste comme vous ?
Ben, j'ai pas pris de cours.
Vous avez commencé à quel âge ?
J'ai appris, j'avais une quinzaine d'années, quoi, sur un orgue Magnus. Mon père avait un petit orgue Magnus avec des accords tout faits dessus.
Ouais, un accordéon horizontal.
Avec un petit ventilateur, là. Et quand on appuyait sur les boutons des accords, les notes arrivaient une par une. Alors j'avais une guitare, mon père avait une guitare, et j'ai écouté les notes arriver une par une, et j'ai appris les accords majeurs, mineurs, comme ça, sur la guitare, en écoutant les notes de l'orgue, quoi. Puis je reproduisais jusqu'à trouver des barrés que je notais. Et j'ai appris les accords comme ça. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des accords majeurs, mineurs. Il n'y avait que ça, hein. Majeur, mineur.
On a souvent parlé de cette émission. Sept accords, oui, non, il y en a 12.
Du Magnus ?
Il y en a... Oui, sur le Magnus, il n'y a pas beaucoup d'accords.
Majeur et sept accords mineurs, je crois. Voilà. Enfin, c'était un début, c'est les principaux.
Magique.
Et à la guitare, ça m'a permis de faire mes premières grilles.
Alors, je fais part d'un scoop aux collectionneurs, les petits orgues Magnus, des petits harmoniums d'accompagnement, des gros harmonicas, qui étaient assez chers, mais maintenant, ils sont encore cotés à peu près dans les 300 francs, donc c'est-à-dire dans les 50-60 euros.
D'accord. Je ne me souviens pas du prix que ça, de ce que ça pouvait.
Ça attire les collectionneurs, il est passé en collection.
C'est rigolo, c'est très typé.
Mais ce qui est, non pas, je ne dirais pas rigolo, mais ce qui est intéressant, c'est cette approche en fait, de la guitare par l'intermédiaire du clavier. Et avec des sons tout faits, comme à l'accordéon, on a des accords tout faits, parfois à gauche, dans l'accordéon à boutons. Donc ça vous a enseigné le manche de la guitare.
Voilà les accords principaux, puis après j'en ai déduit. J'avais un papier sur lequel mon père avait noté les cordes à vide, et partant de là, et puis avec la formation, j'avais quand même appris à l'école les gammes majeures, mineures, où se trouvaient les demi-tons, tout ça, donc j'arrivais à petit à petit, avec les quelques accords que j'avais sur le Magnus, et à reproduire tous les accords dont je pouvais avoir besoin à l'époque, majeur, mineur, dans toutes les tonalités.
Et vous aviez quel âge ?
Une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années. Donc, c'est à l'adolescence où on découvre aussi le flash de la musique, l'impact de la musique rock, bien souvent. Donc, vous avez traversé les années 70 avec deux oreilles affûtées à l'orgue Magnus et à la guitare autodidacte. Et ensuite, vous avez découvert des musiques fatalement, puisqu'il n'y a pas que ce petit instrument qui vous inspire. Il y a, pour continuer vos recherches, il y a des disques.
Il y a des disques, oui. Alors,
qui étaient en vinyle.
En vinyle à l'époque, oui.
Donc vous avez découvert une musique qui était la musique de Magma, de Zappa, de King Crimson,
au début,
pas tout de suite,
non ? Pas du tout, oh, non, parce
Deep
que...
Deep Purple, Led Zepp.
Mes grands... Enfin, je suis d'origine montagnard, d'une partie du Pays Basque et une partie des...
Donc vous êtes aussi d'origine basque et savoyard.
D'origine basque, oui. Et donc j'ai beaucoup été bercé au fandango et... Oui, la musique classique, parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique classique, et puis au cœur de l'Armée rouge.
Ah, qu'est-ce que c'est le fandango, Jean-Claude Delachat ?
Ouh, alors là, j'aurais beaucoup de mal à l'expliquer parce que je ne suis pas resté...
C'est une danse espagnole, basque ?
C'est une danse basque, je pense. Et que ma famille dansait, chantait, tout ça, donc j'ai été habitué à écouter. La musique tzigane aussi, j'écoutais beaucoup. Mes parents écoutaient ça, donc musique tzigane...
C'est une musique où il y a beaucoup de guitares, finalement.
Ouais, du violon, des choses, et puis musique classique, bon. Mais très petit, en fait, tout petit, tout ça, j'écoutais tout un tas de musique, y compris du jazz, mon père écoutait du jazz. Donc ça m'a permis d'avoir une oreille peut-être un peu éduquée.
Alors,
assez tôt. Quoi.
Jean-Claude Achat, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer dans votre premier groupe ?
Alors mon premier groupe, qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer ?
Quand on a un instrument, déjà on a envie de jouer avec des gens, je pense. C'est légitime.
Il faudrait faciliter
cette chose.
Alors cet instrument était à la maison, et cette guitare, et donc j'ai commencé peut-être parce que c'était l'instrument que j'avais sous la main. Quoi. Et au début, ça a été un petit peu de variété, et puis j'ai découvert, alors c'était les Aphrodite Child, je me rappelle, mon premier disque.
Avec Demis Roussos.
Demis Roussos, voilà, It's 5 o'clock, un truc comme ça.
Il y a encore des tubes qu'on entend.
Et puis après, très vite, eh ben, je suis tombé sur des trucs un peu plus, je ne sais pas comment dire, mais disons...
Compliqué.
David Bowie, Alice Cooper, des choses un peu...
C'est plus anglo-saxon. Déjà.
Anglo-saxonne et puis très différente quoi, de ce qu'on pouvait écouter en radio. Quoi. J'avais des copains qui écoutaient des musiques un peu différentes et je me suis mis à écouter ça.
Vous voulez dire que dans les années 70, la radio avait déjà opté pour la variété, la chanson
Un petit peu, quoi qu'on entendait quand même quelques trucs.
Et puis tellement les musiques composées.
Oui, mais déjà, oui, c'était la variété, c'était déjà installé vraiment.
Ouais.
À part dans des émissions spécialisées, là où on pouvait entendre Genesis ou les Who, je ne sais pas quoi.
Mm-hmm.
Donc enfin voilà, plutôt rock au début, voilà,
un peu spécialisé,
plutôt rock et anglo-saxonne.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, j'ai commencé à écouter, peut-être à cause de ce que j'ai écouté quand j'étais gamin, bah, des musiques comme Genesis, Yes, un peu plus
rock symphonique. Ce qu'on appelle rock maintenant le rock progressif, rock voilà, symphonique, quoi. Oui.
Et puis
jusqu'au metal rock symphonique de maintenant,
voilà.
Qui est issu de ça.
Et puis ensuite, donc, le rock progressif, c'est-à-dire à l'époque, c'était le début de Mahavishnu, des choses comme ça, que j'ai commencé à
écouter. Avec John McLaughlin, le guitariste John McLaughlin,
voilà.
Et puis le violoniste, le sitar de Ravi Shankar aussi,
j'en fais les rencontres. Le fils de Ravi Shankar, Lee Shankar, ouais. Et puis d'autres, enfin, un autre violoniste dont je ne me souviens plus le nom aussi. Et puis donc,
après... Sitar, hein, je parlais de Ravi Shankar au sitar, ah. Il a enregistré avec... John McLaughlin.
Plus tard, oui, peut-être avec
dans Mahavishnu, ils ont fait des thèmes ou... à toute berzingue. Ça, c'est impressionnant pour un jeune guitariste, la virtuosité des gens comme ça, déjà dans les années 70. Après Hendrix, il y a eu une flopée de virtuoses, en fait.
Absolument.
Ouais, hein, ouais. C'est une époque romantique.
Mmh. Oh, oui, c'était,
un peu lyrique.
Pour les gens comme moi qui commençaient la guitare, c'était très impressionnant, quoi, d'un seul coup, de voir que la guitare, ça ne servait pas qu'à accompagner des chanteurs, quoi, et qu'on pouvait faire des choses... Même en dehors du rock, quoi, parce que le rock, ça reste quand même, ça restait pour moi de la chanson, quand même. Voilà, donc j'ai passant du rock au rock progressif, et puis petit à petit au jazz, et puis.
On arrive à un groupe, à ce premier groupe dont je vous parlais tout à l'heure. Quel était-il ?
Le tout premier groupe, on c'était des musiques, c'est un petit peu, on va dire, ce qui aurait peut-être ressemblé le plus, c'était Genesis, des choses comme ça, quoi. Musique déjà avec des morceaux un peu longs, voilà, quoi. Des morceaux qui pouvaient faire 10, 12 minutes, des choses qui passaient déjà pas en radio, quoi, sauf dans les émissions spécialisées.
Non, là, c'est vrai qu'il y avait une traîtrise là, temporelle. Il fallait, pas dépasser les 2 minutes et demie.
Ouais,
je pose le monde de la vitesse ça. Encore, on va dire, un peu, c'est du clip. Mais c'est vrai que la musique progressive... a proposé, propose encore des morceaux qui sont absolument pas astreints à l'oukase du temps d'écoute et on peut développer sur 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Moi je cite Magma qui a des morceaux d'une heure ou de 40 minutes, etc. Donc de groupe en groupe, vous êtes arrivé à un groupe très important pour vous qui s'appelle Ederstellar, dont on va parler tout de suite en fait, puisque. C'est un groupe qui a la particularité, l'avantage et l'unicité d'avoir fait les premières parties de Magma pendant un an.
Oui.
C'est quand même un événement, parce que Magma, c'était le groupe phare original de l'époque, qui dure encore. Et donc, cette expérience nous amène à parler de Magma et de Ederstellar, qui reprend des plumes en ce moment. Puisque on commence à en reparler sur les ondes, dans les mouvements spécialisés de rock progressif, de musique zeul aussi un petit peu, on peut dire. Mais en fait, Ederstellar n'a pas trop souffert de ses premières parties de Magma, puisqu'il est encore considéré par des fans qui sont en recherche du disque, vinyle, mythique, enfin des trois albums. La couleur zeul, enfin, c'est-à-dire l'étiquette Magma, c'était un groupe à part entière déjà,
oui.
Hein, pour les fans.
Ah oui, je pense.
Il savait faire la différence entre Magma et des musiques composées qui étaient non pas satellitaires, mais identitaires. Par rapport à ce groupe phare.
C'est-à-dire que les gens, de toute manière, c'est vrai que nous, on écoutait beaucoup Magma et d'autres groupes, mais les gens ont tendance...
Aussi,
il y a eu tout ça, Crimson, Zappa. Magma, c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'un jour...
C'était très différent, quand même.
C'était très différent. Mais à l'époque, j'écoutais vraiment Crimson,
c'est
Zappa, des choses comme ça.
C'est pas anglo-saxon.
Et quelqu'un m'a prêté ce disque mécanique, et moi, je ne connaissais pas du tout Magma. Donc, je l'ai écouté, ça m'a paru très étrange, intéressant, mais difficile à comprendre, quoi. Donc j'ai rendu le disque à la personne et puis j'ai continué mon chemin à bricoler de la guitare, à jouer un petit peu. Et puis un an après, ça m'est revenu. Je suis retourné chez cette personne, redemandé le disque et j'ai réécouté. Et de là, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal après à m'extirper de là, quoi. C'est-à-dire que Magma a vraiment quand même changé un peu ma manière d'écouter la musique, quoi, et de la regarder aussi, parce que c'est un groupe qu'il faut regarder, qu'il ne faut pas écouter.
Je ne bouge pas beaucoup, enfin, sauf à l'époque funky. Magma est assez statique. Mais on parlait à la radio
mais
qui n'a pas la couleur.
J'ai toujours trouvé que le disque ne rendait pas ce qu'on pouvait ressentir sur scène.
Bah écoutez, Jean-Claude Delachat, je propose aux éditrices et aux auditeurs de RVE 103.7 de découvrir ou de réécouter un extrait de ce groupe Magma. Quel morceau on peut choisir, par exemple?
Si c'est pour des gens qui ne connaissent pas du tout Magma, je pense qu'on pourrait écouter Otis, par exemple.
Otis de l'album Merci.
Voilà, qui est un hommage à Otis Redding et qui est peut-être un petit peu différent de leur fonds de commerce, si j'ose dire, de ce qu'ils font habituellement, quoi. Mais c'est un morceau que j'aime bien, en tout cas.
Oui, bah, non,
c'est un plaisir à écouter.
Il y a plein de compos.
Et puis ça correspond à l'époque aussi où on jouait donc dans ses premières parties. C'était l'époque de ce disque-là. Donc voilà,
ça me replonge un peu dans les souvenirs. 1981-1982. Voilà, on écoute tout de suite Otis, composé par Christian Vander, du groupe Magma.
Les yeux blessés, tu vois Memphis illuminé. Écoute, fa 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 fa, résonne encore le cri. Résonne Otis, le cri est né. Réveille-toi Otis, Helios. Réveille-toi Helios, Helios. Tu te souviens du cri Otis? De ta nuit.
C'était donc Otis du groupe Magma sur RVE 103.7. Je vous propose, Jean-Claude Delachat, pour présenter ce groupe Interstellaire, d'écouter un extrait.
Oui.
D'un morceau qui s'intitule
Nihil.
Nihil. Ouais. Nihil, c'est du latin, ça veut dire rien. Le vide.
Oui, c'est une espèce de forme de négation, mais ça allait bien avec notre. La pochette de l'album, ça représentait le ciel, quoi, les étoiles, et donc. Une espèce de quelque chose qui n'a pas de fin, quoi, qui n'a pas de fond. Quoi.
C'est donc un peu dans ça, l'idée quoi. De l'album, Nihil, c'est un grand vide, un grand rien.
Et puis c'est un morceau qu'on a repris plusieurs fois, qui a été modifié plusieurs fois par Michel. C'est pour ça que j'ai choisi un peu celui-là, parce qu'il nous a suivi un peu. Il y a presque une version Nihil sur chaque disque.
Donc nous allons faire découvrir le son du groupe Interstellaire, groupe mythique des années 80, qui a été parallèle à Magma pendant une année. Mmh. Et on verra plus tard pourquoi. On lance le disque et on se retrouve après.
À tout de suite.
Merci Jean-Claude Delachat d'avoir répondu à mon invitation.
C'est un plaisir.
Parlez-moi de vous sur RVE 103.7. J'espère que vous avez apprécié. Mais il ne s'agissait que de la première partie de cet entretien, puisque avec des événements comme ça, on ne peut pas faire sur une demi-heure. On va se retrouver dimanche prochain à la même heure, à 15h30 sur RVE.
D'accord.
Jean-Claude Delachat, au revoir.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
Merci de m'avoir accueilli. À la semaine prochaine.
Il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir était pour nous. C'était Parlez-moi de vous, une émission proposée et présentée par Pierre Mainviel. Je recevais aujourd'hui Jean-Claude Delachat. On le retrouve la semaine prochaine à la même heure. RVE 103.7. Au revoir, à bientôt.